savoir, Emmanuel Bastide.
Bonjour et bienvenue à l'École des Savoirs. Une émission spéciale aujourd'hui consacrée à mai 68, ou plutôt à son héritage dans l'éducation. 40 minutes de débat construit sous forme d'aller-retour entre l'école d'hier, celle d'aujourd'hui. Mai 68, est-ce que c'est le début de la récréation dans l'école ou au contraire la fin du respect, la fin de l'autorité? Rappelez-vous, après mai 68, les filles se maquillent, on fume dans les cours de récréation, les profs installent les tables en carré ou en rond, histoire de mieux se parler, mieux se comprendre. On ne contrarie plus les gauchers. Alors faut-il tout imputer à mai 68? Sous pression des compositions et des classements, mathématiques modernes appliquées à la rentrée 69, suppression du latin aussi en classe de 6e et de 5e. Nous discutons de tout cela avec nos invités issus de trois générations. Gabriel Cohn-Bendit, le grand frère de Dany le Rouge. Gabriel Cohn-Bendit qui est ex-enseignant, fondateur du lycée autogéré de Saint-Nazaire. Jean-Paul Brighelli est parmi nous également, il est professeur de lettres, auteur à très grand succès. Son premier ouvrage, ça s'appelait La fabrique du crétin et ça démolissait en grande partie l'école d'aujourd'hui. Et puis Adriano Farano à ma gauche, jeune journaliste italien, je devrais dire italien et européen, et directeur du média internet Café Babel. Gabriel Cohn-Bendit, Jean-Paul Brighelli et Adriano Farano, bonjour à tous trois.
Bonjour.
Vous êtes tous trois issus de trois générations différentes. Bon, on va commencer par vous demander vos dates de naissance respectives.
1936 pour moi, la génération du papa de Brighelli, vient-il de m'apprendre.
1953.
Et Adriano Farano, le Benjamin.
1980.
Donc, en mai 68, vous aviez Gabriel
32 ans, prof déjà depuis une dizaine d'années.
Que faisiez-vous en mai 68?
J'enseignais. Les élèves se levaient, effectivement, quand j'entrais en classe, mais continuaient à bavarder entre eux, ce qui me fâchait beaucoup. Je leur disais qu'il ferait mieux de rester assis et de me dire bonjour en voyant rentrer en classe.
Ouais. Et vous donniez quelques conseils à votre jeune frère, Daniel Cohn-Bendit?
On a toujours eu une relation très... Mon père est mort, Dany avait 13 ans, donc j'étais un peu le grand frère et le père. Et ça lui a évité toutes les dérives léninistes, trotskistes, maoïstes que n'a pas pu éviter Brighelli dans son jeune temps. Mais lui, il est passé directement au mouvement libertaire.
Jean-Paul Brighelli, à l'époque, mai 68, vous aviez...
Alors, j'avais 15 ans, j'étais lycéen, je dirigeais dans mon lycée ce qu'on appelait les comités d'action lycéens, et en fait, j'étais sur Marseille, et on faisait la liaison entre le lycée et les facs qui, sur Marseille, avaient eu du mal à se mettre en grève. Les facs d'Aix en Provence, qui étaient les facs de lettres, étaient entrées dans le mouvement assez vite. La fac de sciences de Marseille était beaucoup plus timide, quand même. Donc, il avait fallu aller les bouger.
Adriano Farano, vous n'étiez pas né, donc
pas du tout. Pas du tout. Mais ma famille était pas mal engagée à l'époque.
En Italie?
Voilà, tout le monde était engagé à l'époque.
Dans quel système éducatif, l'un et l'autre, Gabriel Cohn-Bendit et Jean-Paul Brighelli, vous avez grandi? Dans quelle école, Gabriel Cohn-Bendit?
Moi, j'ai été élève donc au lycée Buffon à Paris, de la 6e à la terminale, hein, Pasteur. Je fais partie de la génération où on devait être 7% d'une classe d'âge à aller au lycée. Donc il n'y avait pas de problème pour ces 7%-là. Ils redoublaient parfois une fois ou parfois deux, mais tout le monde avait pratiquement son bac, puisqu'on avait été sélectionné avant. Mais même pas sélectionné d'ailleurs. Il n'y avait que nous qui allions au lycée. Les autres allaient à l'école primaire et certains au cours complémentaire. Plus un ou deux petits qu'on tirait, qui n'allaient pas à l'école normale pour devenir instit, mais qui venaient au lycée. Mais c'était vraiment l'exception. C'est dans ce système-là que j'ai été élevé.
Et une appétence envers le savoir?
Oui, parce que j'avais des parents qui discutaient beaucoup. Et donc, j'avais cette chance, heureusement, en dehors de l'école, qu'on me donnait de l'appétence pour le savoir. Tout ce que l'école, en gros, faisait m'ennuyait profondément. Moi, les auteurs classiques, je ne voulais pas. Et par contre, toute la littérature pour jeunesse, le Comte de Monte Cristo, c'est-à-dire Alexandre Dumas, Evaco, Kerwood, le dernier des Mohicans, Jack London, Cro-Blanc, tout ça, c'était de la littérature que je dévorais. Et je suis passé directement à Céline après. Alors là, j'étais plus grand.
Jean-Paul Brighelli, vous, dans quelle école vous avez grandi?
À peu près la même, parce qu'elle n'avait pas tellement bougé.
Mais elle ne vous a pas dégoûté?
Non, non, on m'a appris à écrire avec la main gauche attachée derrière le dos, parce que on ne tolérait pas les gauchers. On m'a donné beaucoup, beaucoup de coups de règle sur les doigts, et même d'ailleurs des châtiments corporels beaucoup plus évolués que ça. Ça ne m'a pas donné un goût particulier pour les fessées, hein, je dois dire très franchement. Parce que Gabriel Cohn-Bendit s'est présenté à partir du lycée. Moi, j'allais dans une école primaire entre les 12e et 13e arrondissements de Marseille, c'est-à-dire dans des quartiers qui étaient des quartiers qui avaient été fabriqués d'extrême urgence vers la fin des années 50. On était 40 par classe, ça marchait assez bien. Je sais pas pourquoi on a parlé par la suite de massification, parce que la première massification, quand même, ça a été la génération du baby boom.
1959, l'école devient 60. Obligatoire jusqu'à 16 ans.
Et on était très 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 nombreux. Alors effectivement, il y avait une sélection. Il y avait ceux qui rentraient au lycée directement après le CM2, Gabi et moi, là. Il y avait ceux qui passaient sur les 6e, 5e de transition, ou le primaire supérieur, qui étaient des systèmes différents et qui marchaient chacun assez bien, en fait.
Alors, vous savez qu'on va faire pas mal d'allers-retours durant ces 40 minutes d'émission. On va revenir aux événements de mai 68. Nanterre est la première université à démarrer le mouvement qui portera ensuite le nom de mai 68. Nanterre a été créée 4 ans plus tôt. À partir du 22 mars 68, on voit des graffitis contestataires qui couvrent les murs de l'université. Les cours sont perturbés. Votre frère était élève à Nanterre, était étudiant à Nanterre, Daniel. Les examens sont annulés. Les étudiants tiennent des assemblées générales contre le capitalisme. Les forces de l'ordre interviennent régulièrement sur le campus. 40 ans après, les universités françaises sont en pleine mutation avec la loi sur l'autonomie des universités qui a été votée l'été dernier. Nanterre vient de changer de nom d'ailleurs. Elle s'appelle désormais Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. La Défense, c'est le quartier des affaires en région parisienne. Alors que reste-t-il de Nanterre-la-Rouge? Écoutez le témoignage de cette enseignante d'anglais, Sylvie Bauer. C'est une ancienne étudiante à Nanterre. Elle nous fait visiter son département 40 ans après mai 68.
Ah, vous voulez du concret? Venez voir les toilettes. Donc, les toilettes. Les étudiants ont droit à des toilettes quand même, mais nous, on a des toilettes qui ferment à clé pour que surtout les étudiants n'y entrent pas, parce que ce serait quand même un acte de lèse majesté. Donc, voilà les toilettes. Donc, pas tellement de problèmes. Là, il y a du savon, parce qu'un collègue a dû apporter du savon, parce qu'il n'y a jamais de savon. Depuis quelques années, on a du papier dans les toilettes, et les étudiants aussi, ce qui est une grande victoire. Et puis, voilà le torchon qui va servir toute l'année, sans être lavé une seule fois. Voilà. Donc, c'est quand même c'est des conditions de travail et d'hygiène qui sont assez intéressantes.
Mais alors attendez, là moi je suis un peu étonnée, je viens faire un reportage sur 40 ans après mai 68, on se retrouve dans les toilettes à part les savons, serviettes, qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans?
Déjà il y a une chose intéressante qui se passe récemment, c'est-à-dire que l'héritage de mai 68, on est quand même un certain nombre à le revendiquer et à être ici entre autres pour ça, parce que des traditions se sont instaurées. Nous on est issus d'une génération d'enseignants qui ont fondé Nanterre, tous nos professeurs, tous nos collègues qui sont maintenant partis à la retraite, c'est les gens qui ont fondé Nanterre. Et jusqu'à il y a quelques mois, l'université s'appelait encore Paris-10 Nanterre, ce qui véhiculait des symboles. Maintenant, les nouveaux statuts d'université ont été votés et notre université officiellement, mais on est un certain nombre à s'y refuser, s'appelle Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Ce qui a quand même une portée symbolique. Je trouve que là, il y a une question de lexique. Il y a une portée symbolique puisqu'on efface complètement Paris-10 Nanterre mai 68. En revanche, on inscrit bien l'université dans un contexte d'économie, de gestion, de droit et de concurrence avec Dauphine et Assas. Et puis, on l'inscrit dans le pôle de la défense, c'est-à-dire directement dans le marché du travail, dans une logique de professionnalisation en dehors de laquelle il y a point de salut.
La défense, c'est le poumon des entreprises de la région parisienne.
Voilà, oui. Oui,
siège des grandes, grandes entreprises.
Oui, bien sûr. Et c'est important qu'il y ait des liens entre l'université et l'entreprise, sauf que nous, on travaille dans les humanités et que dans le domaine des humanités, qui sont très, très fortement menacés par cette logique-là, puisque nous ne servons à rien officiellement, nous ne sommes pas rentables officiellement, nous sommes des filières dites non professionnalisantes, ce qui est faux. Et donc, on est à terme condamné à ne plus faire de littérature, de civilisation et de choses aussi peu intéressantes que la linguistique, puisque ça ne sert à rien de former les esprit.
Voilà, un petit reportage à Nanterre. Les profs se plaignent. Ils se plaignaient déjà en mai 68.
Ils se plaindront toujours.
Je ne sais pas s'ils se plaignaient en 68. Il y avait un grand écrivain qui a fait, je crois, le seul roman véritablement fait sur le vide, qui était Robert Merle, qui a fait un bouquin qui s'appelle, je crois, Derrière la vitre, et qui était prof d'anglais, il me semble, à Nanterre, enfin, de civilisation anglaise, et qui décrivait quelque chose qui était beaucoup plus interactif que ce qui est actuellement le cas. Je veux dire, je crois qu'on est entré là véritablement dans le vif du sujet. Voilà quelqu'un qui se plaint de ce que sa fac n'est pas assez sciences humaines, etc., qui fait du marxisme appliqué de base du style nous sommes directement connectés à la défense, etc.,
et qui tient, au quartier des affaires.
Qui tient en fait un discours incroyablement réactionnaire.
Gabriel Comben.
De façon curieuse, je suis tout à fait d'accord avec Brigadi. Hein. Je veux dire, l'université a toujours été et doit être aussi professionnalisante. La fac de médecine forme des médecins. Et autant qu'elle les forme bien, la fac de sciences forme des ingénieurs, des chercheurs, etc. Et les facs de lettres, des sociologues ou en littérature. Des profs, ça a été comme ça. Hein. Moi, j'étais en fac d'allemand. J'ai commencé par la philo, puis j'ai vu que je n'aurais jamais les concours dans ce domaine-là. Donc j'ai pris ma langue maternelle, c'était plus simple pour moi. J'étais en allemand, mais c'est évident que j'y allais pour devenir prof d'allemand.
Adriano Farano, vous avez fait une grosse partie de vos études à l'Université de Rome, en Italie.
Oui, à la LUISS de Rome.
Et grande université privée.
La LUISS, c'est une université privée. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire une année Erasmus à Strasbourg, à l'IEP.
Comment vous vous sentez par rapport à l'inquiétude des étudiants d'aujourd'hui sur une éventuelle reprise en main des lieux de savoir par le monde de l'entreprise, puisque c'est un peu comme ça que ça a été en tout cas énoncé au moment des récents événements étudiants à l'automne dernier?
Je pense que la relation entre entreprise et université est fondamentale, qu'il ne faut pas non plus dénaturer l'université. L'université, c'est l'endroit où l'on apprend, l'endroit où on développe les connaissances. Aujourd'hui, dans la société de l'information, c'est fondamental d'investir dans l'université. Il faut rappeler que les objectifs de Lisbonne, l'agenda de Lisbonne fixé par l'Union européenne, va dans ce sens et que malheureusement, on est très loin de l'objectif de 3% d'investissement public dans la recherche, le pourcentage du budget de l'État. Et tout ça est regrettable. C'est-à-dire qu'on se perd dans des diatribes, je pense, idéologique, c'est un peu ce qu'on vient de l'entendre, alors que les objectifs sont là, et si on veut pouvoir être compétitif vis-à-vis des autres continents dans le 21e siècle, il va falloir se bouger.
Mais alors finalement, un peu comme il y a 40 ans ou pas du tout comme il y a 40 ans?
Pas du tout comme il y a 40 ans, 68 est mort, je veux dire, c'est qu'il y a 40 ans, on est dans un autre monde, avec d'autres angoisses. À l'époque, l'angoisse n'était pas si grande pour les étudiants d'entrer dans la vie professionnelle. On remettait en cause ce qu'on apprenait, à tort ou à raison. Hein. En Allemagne, on dit on forme des Fachidioten, des spécialistes imbéciles, hein, la spécialisation. On voulait un savoir complexe, on a un peu de tout, et on se spécialise, mais pas en oubliant tout le reste, en oubliant que ce soit relié à tout un savoir. Ça, c'était un des trucs de 68. Bon, il y avait tout un monde autour, effectivement, on l'a dit, en rigolant. Vous avez dit comme ça, les filles n'avaient pas le droit, les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon professeur pour venir à l'école.
Les lycéennes non plus d'ailleurs. Hein, elles, les lycéennes non plus.
Non plus.
Les copines avaient leur pantalon dans le cartable et le mettaient entre deux voitures.
On n'avait pas le droit au blue jean pour les garçons. C'était et donc le maquillage et tout ça.
On va y
arriver. Arrêtons. C'est vrai qu'il y a eu tout un monde qui se termine là. Ça c'est bien. Hein, et qui a évolué, mais c'est un moment de passage. Le monde d'aujourd'hui a d'autres angoisses, d'autres problèmes.
Nous reparlons de cette page qui se tourne. Vous restez avec nous. Alors, des documentaires, des livres sur mai 68, il en pleut en ce moment. Nous avons retenu le travail de Patrick Rothman, 68. C'est un documentaire et je vous propose d'écouter l'extrait d'un printemps pas comme les autres, partout dans le monde.
Montrait, 180 km au sud de San Francisco. C'est là, dans un champ que se déroule en juin 1967, le premier des festivals pop. On roule des joints et l'on se roule dans l'herbe. La drogue, le sexe, la musique, tous les ingrédients de la révolte juvénile des 60s sont réunis pour assurer le succès du rassemblement. Peace and love, love and peace. De l'autre côté du Pacifique, à 10 000 km de Montrait, l'histoire s'écrit au napalm. De protestations, des sit-ins, des occupations d'université se multiplient. Nous sommes jeunes, nous sommes nombreux, nous voulons en profiter. Par leur nombre, les enfants du baby-boom s'érigent dans les années 60 en acteurs de l'histoire. Rêve éveillé, refus de l'autorité. Dans tous les pays développés, l'université est la plaque sensible des craquements de la société. Les systèmes éducatifs confrontés à l'inflation numérique se révèlent inadaptés, archaïques. Les étudiants passent rapidement de la critique de l'enseignement à celle de la société. En ce printemps 1968, dans les principaux pays développés, une internationale de la jeunesse semble se dresser. Nourrie des mêmes lectures, brandissant les mêmes icônes, tendue vers la même certitude. La révolution frappe aux portes.
Un documentaire qui sort en DVD le 6 mai prochain, l'école des savoirs spéciale mai 68. Quel est l'héritage de mai 68 à l'école? Gabriel Cohn-Bendit, Jean-Paul Brighelli, Adriano Farano, vous êtes nos invités. Gabriel Cohn-Bendit, votre frère cadet Daniel Cohn-Bendit, qui fut l'étudiant emblème de mai 68, vient de sortir un livre, Forget 68.
Oui, oubliant.
Dans lequel il écrit que ça n'est pas la bonne question à se poser, la question de l'héritage.
De toute façon, nous sommes des héritiers sans testament. On prend ce qu'on veut, c'est nous qui écrivons le testament de l'héritage, on prend ce qu'on veut dans le passé. Mais c'est pas ça, ce que je veux dire sur l'école. 68 n'a rien apporté, je parle pas de l'université, hein. Il y a des relations entre maîtres-élèves et des choses comme ça de société, mais sur l'école, les grands bouleversements ont lieu, par exemple, après la guerre de 14. Oui, le mouvement Freinet est né en 20. C'est là que des gens ont pensé,
on a fait
des bons petits Français, ils sont tous partis à la guerre, des instituteurs sont revenus, on veut plus faire de ça de nos enfants, la Marseillaise, drapeau, machin, tout. Bon, ils ont dit non pas ça, et ils ont essayé d'inventer d'autres relations pédagogiques. 68 là-dessus n'a rien apporté. Moi j'étais déjà un pédago. Pour nous, l'école de tout petit haute a plusieurs fonctions que tout le monde applique, Brighelli comme un autre, éduquer, ponctualité, l'horaire, on se lève quand on vous le dit, etc. C'est une éducation, c'est pas la mienne. Bon, mais tout le monde éduque dans la classe. Elle a effectivement à ce que des savoirs soient transmis. Alors là, on n'est pas d'accord sur comment ça se transmet. Moi, je pense que les gosses doivent partir de ce qu'ils savent. Ils arrivent à l'école avec une culture, pour moi au sens large, hein. Ils viennent de milieux musulmans, cathos, machin. Ils viennent avec des choses dans la tête. On s'appuie là-dessus pour les emmener ailleurs.
Les
pédagogos, on s'appuie beaucoup sur ce qu'ils sont, on part d'où ils sont, et on ne fait pas la même chose à tout le monde parce que, voilà, et on pourrait maintenant discuter des gosses d'aujourd'hui.
Et pour vous, Jean-Paul Brighelli, un enfant arrive avec sa culture ou il arrive vierge de tout savoir classe?
Il faut être sérieux, il arrive forcément avec une culture. Il arrive déjà, par exemple, avec un usage différent du français.
Ben, bien sûr.
Il y en a certains qui arrivent avec un usage néant du français.
Mais bien sûr.
Bon, donc, déjà, il faut, a priori, les traiter différemment selon la base de départ. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'objectif d'arrivée. Moi, je crois tout à fait à l'idée, qui est d'ailleurs mise au premier plan en ce moment par Xavier Darcos, qui est, sur chaque classe, on va se fixer des objectifs très précis, on va laisser toute liberté pédagogique aux enseignants pour y arriver, on va juste vérifier que les objectifs sont atteints.
Le maître vaut-il l'élève? L'enfant est-il l'égal de l'adulte? Est-ce que c'est un débat qui
personne
a encore un sens aujourd'hui?
Jamais quelqu'un comme moi, qui au lycée expérimental de Saint-Nazaire, les élèves et les profs se tutoient. L'élève a le droit de répondre à un prof. Mais jamais on a prétendu qu'il était l'égal. Il n'a jamais même imaginé qu'il était mon égal. J'ai lu des milliers de livres, tout gosse le sait. Ils viennent chercher chez moi des tas de choses. Est-ce que ça veut dire que maintenant ils doivent se taire, que quand je parle, personne ne bouge, qu'il y ait cette relation, ça c'est très différent.
Vous n'êtes pas partisan du tutoiement, Jean-Paul Brighelli?
Honnêtement, c'est un épiphénomène. Hein. On peut se tutoyer, ne pas se tutoyer,
forme,
on peut mettre une estrade, ne pas mettre d'estrade, c'est une question de forme. En revanche, j'ai jamais dit à mes élèves, regardez-moi, je vous suis supérieur. Il y a le fait
vous
que...
Vous le pensez?
Non, il y a le fait que j'enseigne quelque chose qu'ils ne savent pas et que je suis là pour le leur transférer.
Néanmoins, vous n'enseignez pas de la même façon tous les deux, on en reparle. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal pour continuer ce débat avec vous, Jean-Paul Brighelli, Gabriel Cohn-Bendit et Adriano Farano. 40 ans après mai 68, quelle relation maître-élève, enfant-adulte, bref, quelle éducation pour aider à grandir?
Enfin, explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce Cohn-Bendit?
Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution.